Pour la dernière heure d'ensoleillement qui nous reste, on a eu droit à tout un show dans le secteur de Le Bourgneuf. Si vous roulez en direction est, on a eu droit au full arc-en-ciel. D'un bord à l'autre, au grand complet, au courant des dernières minutes. C'est absolument magnifique.
Quasiment vu le farfader.
Je pense qu'il était là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont trouvé le pot d'or au bout. Là. C'est quand même...
C'est beau pareil. Hein?
Nos risques d'averse sont derrière nous. Fait qu'il nous reste encore un peu de soleil. On a un 6 degrés qui est somme toute assez confortable pour aujourd'hui parce que le vent aussi est tombé ce soir et cette nuit, ça va être quelques nuages. Demain, malheureusement, on recommence avec de la pluie qui va débuter en après-midi. On reste quand même au-dessus du 0 degré. On a un 5 degrés. Jeudi, alternance de soleil et de nuages, maximum de plus 4. La nuit sera excessivement froide, à moins 6 degrés. Je pense qu'on n'a pas encore atteint ces températures-là sous le zéro au courant des derniers jours. Et c'est pour ça que dans la journée de vendredi, il risque d'y avoir de la neige intermittente. Là, on n'a pas encore de quantité, vous comprendrez, mais malgré tout, disons qu'on a plus de fêtes dans l'automne qu'il en reste à faire puis qu'on s'en va directement vers l'hiver. Dans la circulation, Audrey.
Capitale, direction ouest entre Henri IV et Laurentienne. C'est commencé. Ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne que ça se passe. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction nord, il y a quelques problèmes à prévoir entre Charest et Wilfrid Hamel. Henri IV sud, ça commence à peu près à la hauteur de Versant Nord jusqu'à l'entrée des ponts. Pour le reste, honnêtement, pas si pire. Commence à y avoir quelques problèmes du côté de la 20 ouest dans le coin de Chemin des Îles, mais il faut le dire rapidement, là, il y a quoi que ce soit d'autre, 88-971-102 un texto.
Pendant plusieurs années, l'intelligence artificielle, c'était un thème qu'on retrouvait dans des films de science-fiction, puis ça tournait vraiment très, très mal. Mm. Depuis quelques années, on en parle plus. On a eu beaucoup de textes, d'ailleurs, récemment sur l'impact que certaines intelligences artificielles peuvent avoir dans la vie d'individus qui développent des interactions avec eux autres. Puis là, c'est rendu que vous ouvrez votre frigo, puis elle est là, l'intelligence artificielle. Vous allez prendre une marche, elle va être là. C'est absolument partout. Puis le monde des finances fait pas exception de ça. On dirait que c'est là que ça vient juste d'arriver, la vague, alors que c'est pas ça du tout. Pour nous parler de la manière dont ça a monté, qu'est-ce qui s'est passé avant que ça devienne grand public, bien, on a avec nous notre planificateur financier, Alex Leblon. Salut, Alex!
Salut, la gang!
T'aimais ça, les films de science-fiction avec l'intelligence artificielle?
J'ai jamais tant été science-fiction,
non. Moi. Pourtant, c'était le cauchemar de plusieurs.
Oui, bien, ça tenterait de le devenir, là.
C'est le cauchemar sur le robot humanoïde.
Aussi.
Mais là, peut-être qu'on va les voir se fusionner bientôt, ça, les fameux robots qui font du ménage. Mais
ça, c'est Terminator.
Tu vas ajouter aussi de l'intelligence artificielle là-dedans, fait que mon Gemini qui est dans mon téléphone va aussi être mon robot, puis là, ça va être une vraie personne. Ça va être inquiétant.
Il y en a un qui commence à être commercialisé, le Neo qui s'appelle.
Ouais.
C'est un genre de robot.
N-E-O? Pareil comme dans Matrix?
Oui, exactement.
Il s'appelait le même aussi?
Non, ça, c'est le personnage principal qui s'appelait comme ça.
Fait que t'es en prototype, là, tu peux le commander pour 25 000 $ si t'as 25 000 $ qui te
rien de j'ai moi, toujours ça. Laisse-moi voir mon petit change. Là, j'ai acheté un café, je vais avoir ça 25
000. Ben,
là, c'était pas ça le sujet.
C'est un peu relié. Sa job, c'est de t'aider dans tes tâches ménagères. Fait que tu le commandes, puis lui, tu vas le trainer, tu vas l'entraîner à vider la vaisselle, tu vas l'entraîner à ton lit.
T'as-tu une femme de ménage, toi? T'as-tu quelqu'un?
J'avais quelqu'un.
OK, c'était combien?
À me coûter, mettons qu'on poussait, là, mettons 100 $ aux deux semaines, là.
Ça fait 200 par mois.
Exact.
C'est long, on va le rentabiliser.
Après combien d'années, t'es rentabilisé sur ton...
Non. Je sais pas encore.
Il y a du potentiel, là.
C'est tout le temps, c'est une nouvelle technologie, c'est plus cher au début, mais tu sais, les gens qui font le robot, ils disent, sont honnêtes. Là. Ils disent, ce que vous commandez au jour 1, c'est sûr que c'est de la merde, là. Parce que vous le testez avec nous autres. Là.
Okay.
Fait que c'est vraiment pour
c'est la recherche et du développement.
C'est ça. Ouais.
Mais si on parle vraiment d'intelligence artificielle puis des grandes compagnies, parce qu'il y a eu des tractations, ça a été pour quasiment des licornes à un certain moment donné. Tu avais la personne qui avait eu la bonne idée dans la programmation, puis rapidement, tu te rendais compte que ça pouvait se vendre pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis là, c'est les plus gros noms qui commence à faire des transactions dans le monde de l'intelligence artificielle.
Oui, ça a l'air un peu hors sujet. Ça n'a pas l'air de concerner tant la planification financière.
Alors que je trouve que oui.
Ben, c'est surtout que les marchés boursiers, en tant que tels, ça n'existe pas. Là. Les marchés boursiers, c'est des compagnies.
Ouais.
Puis là, ce qui fait exploser les marchés boursiers cette année, c'est toutes les compagnies qui, de près ou de loin, développent l'intelligence artificielle. Fait que ta job en tant que planificateur financier, c'est de comprendre ces mouvements-là.
Puis on est comme à l'ère où on regarde, hey, si tu avais investi dans Amazon à l'époque où ils vendaient encore juste des livres, tu serais vraiment content de ton petit investissement de l'époque. Fait que on dirait qu'on est plus allumé sur les tendances de l'avenir pour savoir, vas-tu être capable de faire le prochain grand coup? Là?
Est-ce que c'est ça qu'ils font, Nvidia?
Nvidia, là, c'est... c'est pas eux qui vont développer. Nvidia, c'est la plus grosse compagnie au monde présentement. Avant, c'était Apple, ça a
c'est été Microsoft. C'est les processeurs.
Exactement.
T'avais ça dans ton Pentium, dans le temps, quasiment. Là.
Ben, moi, j'en ai des puces, des chips Nvidia dans mon laptop. Tout le monde a un produit Nvidia ou à peu près sans s'en rendre compte, là. Voyez-le comme ça, là, souvent, là, justement, tout le monde. C'est la plus grosse compagnie sur la planète à cause que OpenAI, qui sont derrière ChatGPT, commande en malade des puces auprès de Nvidia.
Oh, c'est pour ça qu'ils sont devenus aussi gros.
Entre autres. Oh. Fait que dites-vous qu'il y a une ruée vers l'or présentement, puis Nvidia vend des pelles. Fait que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir.
C'est très bien illustré.
Fait que c'est pas, tu vas pas, hey, on s'en va chez Nvidia tantôt, c'est pas de même.
Il y a pas de compétition Simon, dans ce marché-là de la micropuce?
Il y a de la compétition. TSMC qui est à Taïwan. T'as Intel qui est le classique, mais qui est un peu.
Qui existe depuis toujours. Hein?
T'as AMD aussi qui est géré par la cousine du gars de Nvidia. Fait qu'il y a comme un lien entre les deux. Fait qu'il y a de la compétition, mais les puces de Nvidia sont de loin les meilleures. Okay. De loin, ils sont 10 ans en avance sur tout le monde. Fait que c'est pour ça que c'est. Il y a de la compétition, mais les autres sont capables de charger vraiment plus cher puis de backer ça en disant « Hey, on a le meilleur produit. » Fait que c'est pour ça qu'ils sont devenus les plus gros. Ils ont, eux autres, ils ont un gros, gros deal avec OpenAI, justement, qui sont derrière ChatGPT. Il y a un deal qui vient d'être signé de 100 milliards. Puis là, OpenAI, mettons qu'on prend juste celui-là, là, qui sont derrière ChatGPT, ils viennent de signer dans les derniers mois, là, deal de 38 milliards avec Amazon, 250 milliards avec Microsoft, ce qui est un deuxième entente. Là. Il y en avait déjà une il y a quelques années. 60 milliards avec AMD, 200 milliards avec Broadcom. Ils sont engagés à dépenser 1,4 trillion de dollars pour leur infrastructure au cours des prochaines années.
C'est fait que
l'argent, là, sa planète présentement,
ça tourne autour de ça. C'est pour ça qu'on en parle autant puis qu'on avait pourtant l'impression que ça n'existait pas auparavant. Tu t'entendais des échos, mais quand c'est devenu tangible, c'est quand monsieur, madame, tout le monde s'est mis à se faire proposer d'utiliser, par exemple, une intelligence artificielle on the side.
Bien, si on prend Google, là, parce que là, Google a un peu été détrôné, mais Google, ça a été... Tu regardes les entrevues des fins des années 90 là, de Larry Page puis Sergey Brin, surtout Larry Page, là, les fondateurs de Google, eux autres le disent déjà. Google should be an AI company. Fait que ça fait des décennies, en réalité, que l'intelligence artificielle est dans nos vies. Là, on en parle plus, puis on interagit avec, parce que c'est via des chatbots, des robots conversationnels. Mais si on prend juste l'exemple de Google... Là, mettons, tu sais, quand t'écris une... c'était ça, il y a 15 ans, là. Si t'écris de quoi sur Google, puis là, tu te trompes, puis là, ils te proposent...
Ils vont te le corriger.
You mean telle affaire?
Ouais.
C'est de l'intelligence artificielle, ça. C'était... L'ordinateur a compris que c'est pas ce que tu voulais vraiment. Même chose pour quand t'écris de quoi, puis...
Ils complètent ta phrase, ils complètent l'expression.
Exact. Ils sont capables de te géolocaliser. Ils connaissent ton historique de recherche, fait qu'ils savent que, hey, on est capable d'anticiper les prochains mots. Google faisait ça en 2004. Là. Fait que l'intelligence artificielle, elle existe depuis une bonne secousse. Google a été assurément les meneurs
Mais ils se sont fait détrôner, là. On dirait par le fait que, justement, on n'est jamais passé de l'autre côté à celui où tu allais prendre en compte, justement, les recherches précédentes pour... adapter la communication que tu as avec la personne qui fait ta recherche.
Bien, Google se sont un peu assis sur leur laurier. Les fondateurs sont devenus moins présents dans le day-to-day de l'entreprise. Puis là, tu vois Sergey Brin, un des fondateurs, il est revenu pour... Il s'est imposé pour vraiment être à la tête de la division AI de Google, de la division intelligence artificielle. Puis là, ils ont développé Gemini, qui est meilleur.
Mais ça colle pas. Ça colle pas parce qu'actuellement, dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est le principe du frigidaire puis du Kleenex.
Ouais.
M'en a chat. Tu vas utiliser n'importe quelle autre intelligence artificielle, mais le réflexe de tout le monde demande à ChatGPT.
Oui, ouais. C'est vrai que...
C'est rendu le nom commun pour dire que tu vas demander à autre chose qu'à un moteur de recherche standard une recherche que tu vas vouloir faire.
Moi, j'utilise Gemini. Ouais. C'est celui-là qui est dans mon téléphone. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un Android, justement, puis que ça fit plus là, que les Apple. Mais, tu sais, encore là, c'est le meilleur, mettons, là. Mais j'ai encore demandé de me proposer des jeux de mots avec poulet tantôt, puis c'était un accident de char. Là.
Non, ils sont pas là par
tous ces jeux de mots. Fait que moi, ils me font pas bien ben peur encore. Là.
Mais tu sais, l'histoire de OpenAI et donc de ChatGPT est super intéressante parce que en tech, depuis 15 ans, il y a un personnage qui est central à toutes les histoires et c'est Elon Musk.
Ouais.
Comment OpenAI et ChatGPT ont été créés là, à la base? Là, c'est Elon Musk qui parlait justement avec Larry Page, qui était un de ses bons amis à l'époque, fondateur de Google, puis... Il y avait des conversations, tu sais, des longues soirées.
Là, sont-ils encore amis?
Non.
Ouais, c'est ça.
À la limite philosophique, dans le fond, sur l'avenir de l'information puis de la recherche.
L'avenir du AI, qu'est-ce que ça fait? Puis Elon Musk, lui, il avait peur de ça. Il se disait, hey, ça va tuer des jobs.
On va perdre le contrôle.
On va perdre le contrôle. Puis Larry Page, lui, du moins selon les dires d'Elon Musk, avait pas nécessairement ces inquiétudes-là. Fait que quand Musk a vu que, OK, cette technologie-là qui a le potentiel d'être super dangereuse, elle est entre les mains d'entreprises comme Google ou Meta ou Amazon qui, essentiellement, ne veulent que faire du profit. Il s'est dit, hey, ben moi, je vais créer ce qu'on appelle un open source. Là. Fait qu'un modèle qui est disponible au public, qui va être sans but lucratif. Fait qu'on va pas vouloir faire du cash avec ça. On va vraiment juste vouloir développer la technologie puis que les meilleurs cerveaux sur la planète soient non pas utilisés à des fins commerciales, mais à des fins vraiment...
Ouais.
Fait que OpenAI est né comme ça. Elon Musk était un des fondateurs de OpenAI. Puis eux autres, en 2015-2016, c'était vraiment, OK, comment on fait pour développer cette technologie-là? Fait qu'il y a un paquet d'ingénieurs qui sont partis de Google, qui sont partis de Meta, pour aller travailler chez OpenAI.
Je t'écoute parler, puis tu connais pas mal ça. Fait que moi, je veux poser la question à quelqu'un comme toi. Est-ce que t'as peur de l'IA puis de la fameuse fin du film des robots
qui domine le monde?
Non.
Parfait, OK.
Parce que...
Il est rassuré.
Non, mais là, tu sais, moi, je sais pas si je suis supposé d'avoir peur encore. Et je sais pas qui croire. Fait que c'est ça l'affaire aussi, là, de, comme qui a développé quoi puis quelles intentions sont derrière tout ça. Là.
Ben, j'aurais peur si... Moi, ça fait deux fois que je vais... Il y a comme des événements un peu privés. Le prochain va être plus public, là, on pourra en parler, mais c'est un peu underground à Saint-Roch, puis c'est des fonds...
Des grandes toges,
ça a l'air louche, mon affaire.
C'est ça,
là.
Vraiment.
mais c'est comme des fondateurs de compagnies, puis tout à Québec, puis on partage les use cases de AI. C'est-à-dire qu'on regarde, OK, ben, tel outil, comment je l'utilisais dans ma compagnie, voici en détail ce que j'ai fait, puis ainsi de suite. Fait que moi, j'ai pas peur parce que je me dis... La pire affaire que tu peux faire, là, c'est de tomber en retard là-dessus.
T'as pas le droit.
Quelqu'un qui n'est pas embarqué dans la vague Internet, il attend 5 ans puis il veut s'y intéresser, le train est passé. Là,
c'est comme la personne qui communique encore juste par courriel pour essayer de faire vite. Ça se peut que ce soit difficile à une époque où on fonctionne beaucoup plus par texto. Là.
Ouais. Fait que moi, j'aurais peur si, mettons, j'étais en retard puis je m'y intéressais pas, mais puis là, on prend de l'avance un peu, mais il y a une phrase que j'ai vue quand j'ai commencé à m'intéresser à ça puis à le résumer vraiment cet aspect-là. Là. Tu ne vas pas être remplacé par l'intelligence artificielle, tu vas être remplacé par quelqu'un qui l'utilise.
Oh, c'est bien
si
dit.
Si la personne.
Oui, okay.
Si moi, je suis un dirigeant d'entreprise, puis je passe quelqu'un en entrevue, puis j'ai une personne qui, elle, n'est pas pantoute dans cet environnement-là, n'est pas capable de l'utiliser, puis j'ai une personne qui, elle, connaît ces outils-là, est capable de les intégrer, bien, cette personne-là va être 100 fois plus efficace que l'autre. Fait que la job existe encore, mais moi, je vais sélectionner en fonction de ça.
Va une époque où on est passé justement de fonctionner avec des machines à écrire puis versus des ordinateurs. La personne qui s'était adaptée rapidement, que la suite Office, elle connaissait ça, avait un avantage considérable sur la personne qui restait campée dans ses positions. Puis, oh non, moi, j'embarque pas dans ça, la technologie. Mm-hmm. On vient à peu près au même. Là.
Ben, la suite Office, c'est un super bon exemple. N'importe qui a passé un petit peu de... tant sur Indeed dans sa vie ou au cours des 5-6 dernières années, tu le vois, là, un des principaux prérequis, c'est savoir utiliser la suite Office.
Faire un chiffre Excel.
Si tu cherches un job, mettons, au niveau administratif présentement, puis tu ne sais pas utiliser Word, Excel, ça dépend, il y a des niveaux, là, mais tu sais, si tu n'es pas capable de naviguer dans cet environnement-là, tu es mort. Fait que l'AI, ça va être la même affaire dans 5 ans. Si tu n'es pas capable de naviguer dans cet environnement-là, ben ça va être beaucoup plus difficile pour toi de te placer. On n'a pas fini
l'historique.
L'historique de OpenAI, là, parce que comme n'importe quelle relation d'Elon Musk, ça finit toujours par exploser et tout le monde saillit. À un moment donné, OpenAI, il faut comprendre, le ChatGPT, c'est une machine à brûler du cash. Là. Ils ramassent une pièce, ils se font donner une pièce puis ils en dépensent 5. Là. Ils ont promis qu'ils allaient dépenser 1,4 trillion en infrastructure. Ils ont des revenus de 13 milliards de dollars présentement. Fait que ça brûle du cash en fou. Ils n'ont pas le choix de changer leur structure un peu. Là, ils sont dans une structure de OBNL, essentiellement. Là. Ça a l'air foisé, là, mais c'est ça présentement. Ils ont comme fait une structure pour profit qui est détenue par la sans but lucratif, qui est comme une structure temporaire. Mais là, eux autres, ils ont levé des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui sont déjà dépensés. Mais une des conditions pour le versement de cet argent-là, c'était « Hey, faut que vous deveniez une entreprise à but lucratif. » Fait que Musk, là, son enjeu avec OpenAI, c'était vraiment ça. C'était que « Hey, ben là, c'était supposé être open source, sans but lucratif, puis là, c'est devenu closed source, fait que personne n'a accès au modèle, personne n'a accès à la donnée derrière le modèle.
Vous n'êtes pas conséquent avec ce que vous aviez vendu.
Exactement. Fait que lui, il a claqué la porte, il a arrêté de financer, parce qu'au début, c'était financé essentiellement de sa poche. Puis il est parti, quand il a acheté Twitter, il s'est parti son propre, sa propre intelligence
artificielle. Qu'on voit maintenant à l'intérieur de X, là, utilisé Grok.
Ouais, fait que ça, OpenAI, présentement, est le plus gros joueur dans
cette catégorie-là.
Puis là, eux autres disent que l'année prochaine ou l'autre d'après, ils vont essayer de faire une entrée en bourse. Fait qu'ils vont vraiment faire le jump, là, ils vont devenir 100% à but lucratif.
Ils vont mal porter leur nom, là. C'est plus OpenAI, c'est CloseAI.
Ben, il va falloir qu'ils changent de nom, je sais pas ce qu'ils vont faire, là. Fait que là, eux autres sont comme un petit peu dans le trouble, là, parce qu'ils sont entre deux structures. Il y a des gens qui ont mis de l'argent initialement parce que c'était comme, hey, ben, c'est sans but lucratif, on va mettre de l'argent là-dedans, des milliardaires, puis là, en tout cas. Fait que eux autres, ils ont des gros problèmes pour le futur, mais ça demeure encore aujourd'hui le plus gros modèle, là.
Puis eux autres, c'est quoi leur ambition, outre de continuer sur la lignée qu'ils ont actuellement?
Bien, l'ambition de tout le monde là-dedans, là, parce que tu as Anthropic, qu'on connaît moins, mais le modèle Claude, là, peut-être que...
Oui, Claude, on l'a déjà vu passer. Moi, je suis sur Perplexity. Il y en a vraiment beaucoup.
Il y en a un paquet. Puis c'est essentiellement la course à... C'est qui le premier qui va développer ce qu'on appelle AGI?
C'est quoi la différence avec un AGI puis un AI?
Bien, Artificial General Intelligence, là, c'est une intelligence artificielle qui est assez développée, assez puissante pour que... est capable de faire n'importe quel travail, disons, clérical, là, aussi bien, voire mieux qu'un humain. Fait que tout le monde se bat essentiellement pour être les premiers qui développent ça. Fait qu'OpenAI, eux autres disent, « Hey, on pense qu'on va être là dans 5 ans. » Il y en a d'autres qui disent 8 ans, 10 ans, 12 ans. Personne ne dit la même affaire, mm-hmm. là, mais le but final, c'est ça.
Puis faire
c'est...
des classements, faire des résumés, faire...
Des jeux de mots.
Non, pas des jeux de mots. Ça, c'est pas du clérical, ça, c'est du créatif. T'es encore safe pour le moment.
C'est bon. Même plus large que ça. Là. Bâtir des infrastructures, faire des transactions financières, faire des... n'importe quoi. T'sais. C'est vraiment large, cette affaire-là.
Là, on avait même entendu parler d'analyse. Si, mettons, tu es en planification de projet, puis qu'une intelligence va être capable de sortir tous les scénarios avec les avantages, les inconvénients, puis ça peut quand même aller très, très loin, là.
Ouais, fait que là, tout le monde, c'est là où les gens ont peur un peu, là. Parce qu'au début, c'était drôle, là, tu posais des questions, puis ils te répondaient, puis là, tu faisais faire des niaiseries un peu avec.
Moi, j'ai des recettes, beaucoup.
Ouais, genre
il me reste ça dans le frigo.
Sérieux, ça torche, là.
Fait que c'était le fun jusqu'au jour où tu vois un article, puis ça te dit, voici les jobs qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle qui va être rendue.
T'as-tu peur pour la tienne?
Ben, même réponse que tantôt. Je pense que
parce que toi, ça peut devenir un outil éventuellement.
Ben, ça peut devenir un outil autant pour moi que pour le client.
C'est déjà un outil, même, je pense.
Ben oui, 100%. Ah ouais. En planification financière, on a un gros problème qui est les clients qui n'ont pas beaucoup d'actifs n'ont pas beaucoup accès à des professionnels de qualité. Mm. Fait que si l'intelligence artificielle peut prendre ça en main, ben, crime, c'est juste un win pour tout le monde, là. À mes yeux, à moi, là. Puis dans la pratique, ben, je vous donne un exemple. Mettons, moi, présentement, j'ai un problème dans la compagnie qui est un problème administratif. Là. Je suis en train de faire trop de job admin versus...
Ce que tu vas faire comme ta vraie job.
Ce que je devrais faire.
De planif. T'sais.
Fait que là, mon réflexe...
Les médecins vont dire qu'eux autres aussi ont des problèmes de même.
Mais tu sais, si on était il y a 5 ans, mon réflexe, ça aurait été quoi? Ça aurait été de dire, OK, je vais aller sur Indeed, rédiger une offre d'emploi. Là, mon premier réflexe, c'est quoi? C'est de dire, OK... C'est quoi le tool que je peux utiliser? Il me coûtera 500$ par mois, je m'en fous. Mais c'est quoi l'outil que je peux utiliser pour que... Ça veut pas dire que ça va remplacer un humain que j'engagerais.
Mais ça va faire une partie de la job puis t'alléger la tâche.
C'est ça. Ouais. Ça me donne peut-être un autre 6 mois ou une autre année. Fait que tout ce qui est ce genre de... Moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que propriétaire de compagnie, je me sens beaucoup plus... Le mot en anglais, c'est « empowered ». Je sais pas c'est quoi en français, là, mais je trouve que j'ai beaucoup plus d'options.
T'as
je suis plus
destinée,
agile.
Ouais.
Fait que rendu là, ce sera de voir si ça marche pour de vrai. Je ne l'ai pas trouvé, le tool. Là. Mais moi, je le vois comme ça. Si tu le considères comme un outil et non pas comme une menace, tu vas t'en sortir gagnant.
Là, ça a donné des tangentes du côté de la bourse. Certaines compagnies qui ont été favorisées. Est-ce que c'est quelque chose qui est là pour rester ou à un moment donné, tout ça va se stabiliser puis ça va moins prendre en feu comme ça peut prendre en feu à ce moment-ci?
Ouais. Mais la question que tout le monde pose, c'est une bulle? T'sais, parce qu'on a vécu une bulle là, en bourse, là, c'est ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Puis à un moment donné, tout le monde se rend compte que, hey, Caroline, c'est basé sur rien cette affaire-là, puis ça explose. On l'a vécu avec les compagnies, la bulle Internet là, au début des années 2000, là, c'était exactement ça. Il y a un paquet de compagnies qui avaient comme .com dans le nom.
Oui, ils faisaient toutes des pubs au Super Bowl. Je pense que la moitié des pubs du Super Bowl, c'était ça, achète ton nom de domaine.
Oui, c'était fou raide. Puis là, ça s'en allait en bourse, puis c'était des compagnies, des fois, qui n'avaient même pas de revenus, encore moins de profits. Puis c'était Internet, fait que, OK, c'est l'avenir, let's go, on met notre argent là-dedans. un moment donné, tout le monde s'est rendu compte que c'était du vent. La bulle a éclaté, puis là, toutes ces compagnies-là ont perdu 75, 80, 100% de leur valeur dans certains
crypto-monnaies, ça a comme eu une inquiétude de tout ça un peu, un bout. Là, j'ai pas regardé récemment, mais tu sais, le Bitcoin, ça a monté. Tout le monde en parlait. J'ai même pas vu si ça crashait un peu, mais...
Ouais, on va pas voir cette semaine.
C'est pas une bonne semaine.
Mais
ça perdure plus dans le temps, effectivement. Okay.
C'est la nouvelle affaire comme les Internet, de faire OK, c'est quoi en réalité ça? Là.
Mais tu sais, le problème avec une bulle, c'est... Une bulle, là, ce qui est inquiétant, là, c'est quand ça monte, puis t'es pas capable de l'expliquer. Mm-hmm. Tu sais, au début 2000, c'était ça. Il y avait un hype, il y avait de l'engouement, mais t'étais pas capable fondamentalement, avec des arguments rationnels, d'expliquer pourquoi telle compagnie avait augmenté. Tu sais, Amazon, une année, là, en 97, avant que ce soit le Amazon qu'on connaît, là, Amazon qui brûlait de l'argent puis qui vendait 2-3 livres sur Internet, là, il y a une année, fin 90, là, avant l'éclatement de la bulle, ils ont fait 956% de rendement à la bourse en un an. Leur profit était un gros zéro, leur revenu était... pas loin de ça non plus, mais il y avait de l'engouement. Fait que, même quand la bulle a éclaté, là, Amazon a perdu 80% de sa valeur en 2000. En 2001, ils ont perdu un autre 30% de la valeur au début de l'année. Là. Fait que, même s'il y a des bulles qui éclatent, il y a des bonnes compagnies qui sortent de là. Mais présentement, on regarde les compagnies comme Nvidia, mettons, la valeur a explosé. Mais quand tu t'en vas voir leurs chiffres, quand tu t'en vas voir les résultats financiers, les profits suivent aussi.
Mm-hmm. Mais là, tu es capable de nous dire comment ça se fait que ça bouge de même. C'est parce qu'il y a tellement d'achats qui se font, fait qu'il y a ce volet-là.
C'est basé sur du réel. Fait que, tu sais, Google, qui fait beaucoup d'investissements en AI, ben, il fait pas de l'argent vraiment avec ses investissements là-dedans présentement, mais il y a tellement d'autres divisions dans la compagnie qui sont capables de faire de l'argent avec ça. Fait que présentement, pour la majorité des compagnies qui explosent en bourse, tu es capable de regarder le balance sheet et dire « OK, ça fait du sens ». Il y en a peut-être une qui répond pas à ça. Là.
C'est qui?
Une compagnie qui s'appelle Palantir, qui essentiellement met de plus pas une recommandation d'achat ou de vente, là, mais eux autres, là, ils se trade, fait que l'action est beaucoup plus haute que où sont ses profits. Tu es quand même capable d'expliquer pourquoi elle monte. C'est pas basé sur de l'irréel. Mais
c'est dur de dire si ça va rester même sur le long terme.
Exactement. Mais tu sais, j'ai vu un nuage de points là, des différentes valuations boursières cette semaine. Là. Tout le monde est à peu près en même place, puis eux autres sont 15 pieds par-dessus. Là. Fait que c'est peut-être la seule qui semble dans un territoire de bulle, là, mais tu es quand même capable de l'expliquer plus que bien des compagnies Internet au début des années 2000. Fait que moi, ça ne m'inquiète pas. Ça monte beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça se peut très bien que... Tu sais, là, tout le monde met bien de l'argent là-dedans. Ça se peut très bien que la Chine arrive puis dise « Hey, nous autres, on est capable de faire la même affaire que vous
pour bien moins cher.
Le tiers du prix. » Puis là, tout le monde perd 15%. Ça se peut, ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que... ce qu'on vit présentement, c'est de l'euphorie puis c'est de l'irréel.
Hey, merci Alex, j'ai trouvé ça passionnant, ce petit historique-là, puis pourquoi effectivement il y a un impact. Fait qu'en gros, ta conclusion, c'est qu'on est mieux d'adopter l'intelligence artificielle plutôt que de s'en méfier puis d'attendre que ça passe.
Ouais, jouer avec ça, puis faut juste pas tomber en retard, parce que ça va tellement vite que si tu tombes un en retard, deux en retard, c'est dur de reprendre le train après. Puis si t'es toujours à jour là-dessus, ben ta job, peu importe qu'est-ce qu'elle est, elle risque de ne pas être en danger parce que tu vas demeurer un atout pour soit ta compagnie ou celle pour qui tu travailles.
Puis n'oubliez pas de dire merci à l'intelligence artificielle après chaque demande. T'sais, des fois qu'à un moment donné, il se retournerait comme
moi, je le fais sans joke. Hey,
mais
aussi.
Ça, ils disent
je dis bonjour, je dis merci, je dis tout. Comment ça, ils disent de pas faire
c'est
ça?
Pour des considérations environnementales.
Oui, c'est parce qu'eux autres, il faut que tu... Tu sais, OpenAI, là...
Ça bouffe autres, de l'énergie. Là.
Hey, ils brûlent du cash. Chaque message leur coûte énormément cher. Là. Fait qu'eux autres, toutes les maudites niaiseries, ils haïssent ça. Là. Eux autres, ils disent « Va straight to the point » parce que chaque fois qu'il y a un merci de plus ou un salut de plus, nous autres, on...
Longs messages à son intelligence artificielle. Là.
Par exemple, je mets tout dans la même affaire. C'est très poli, mais c'est une lettre. Moi, ma demande est claire.
Oh my God, Audrey.
Qu'est-ce que
c'est? Non, ben, moi, mettons, c'est « recette chou-fleur poulet ». Moi, c'est ça, puis let's go,
ils vont. Tu le sais, quand ils vont se venger, tu vas être dans les premiers à y passer.
Mais non, c'est ça,
ils vont être
moi, c'est bonjour, chat. Est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, une recette? Merci.
Hey, sérieux, si c'est pour être la fin du monde, je préfère crever en premier pour pas voir ça. Fait que je m'entorche.
Merci, Alex Lablon, planificateur financier. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Audrey, on n'a pas le choix d'aller dans le circule parce qu'il y a plein d'affaires. Il y a encore des arcs-en-ciel, mais ils se sont juste déplacés.
Oui. Bien là, ça revient beaucoup par le texto, là, je tiens à le dire. Il y a des bottes de foin. Ça va du centre en face des chutes Montmorency.
Des restes d'Halloween?
Sur la 138 Est. Ça crée un bon ralentissement. Ça fait 3 textos qui rentrent là-dessus. Mais fait que oui, des bottes de foin dans votre
centre. C'est un chargement qui a été perdu.
Exact. Fait que soyez juste prudents parce que c'est quand même une grosse botte de foin.
Ouais, c'est mou, par exemple, fait que ça rebondit.
C'est pas mou des bottes de foin, mon
dans les jeux vidéo que j'ai, là, ça rebondit.
Ouais, mais non, pas dans la vraie vie. Non, on te conseille pas ça.
C'est plutôt non un peu, Gab. Si vous êtes sur la capitale, direction Est entre Henri IV et Laurentienne, c'est pas terminé. Direction Ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne. Des problèmes également sur Robert Bourassa, direction Nord, entre Wilfrid-Amel et la capitale. Charest Est, hauteur, capitale. Henri IV Sud, à partir de Charest, ça ralentit jusqu'à l'entrée des ponts. Duplessis Sud, versant Nord, au pont. Et dans le coin de Shannon, devant la base militaire, route de la Bravo dans les deux directions. Si on s'en va sur la rive sud, c'est la 20 Ouest entre la route du président Kennedy et chemin des îles. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-102, un texto.
Il est 15h58. Dans les prochaines minutes, ce sera le dépôt du budget fédéral. On va surveiller ça pour vous, voir est-ce qu'il y aura des impacts sur nous. Le déficit va ressembler à quoi? Si vous avez des questionnements, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous texter. On s'arrête quelques instants et on revient. Gravel.